Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition de Martin Dinou.
Star Wars en direct Making of, édition numéro 8 pour le tournage du Retour du Jedi. Et comme vous pouvez le constater, première précision, nous sommes toujours vivants.
Tout à fait, nous avons été un petit peu coincés dans le permafrost comme le fut notre cher Han Solo, mais nous revoici, nous sommes de retour en forme.
Dany nous a libérés et donc nous allons pouvoir vous parler évidemment du tournage et de son lot d'anecdotes.
Remercions nos partenaires, merci donc à siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Génération Star Wars et Science Fiction.
Es-tu prêt à passer en hyperespace?
Je suis prête en effet.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Nous y sommes. Donc, nous allons vous parler du tournage de l'épisode 6, le retour du Jedi.
Tout à
Alors,
fait.
Comment ça se passe, Martin? Qui est à la réalisation?
Richard Marquand.
Et qui est le producteur exécutif?
Robert Watts.
Et alors, qu'est-ce qui décide finalement, ces deux bonhommes?
Ces deux personnes décident finalement, à la veille du tournage, de savoir quelles sont les premières scènes qui seront tournées. Et le choix va vers la tempête de sable, après l'opération de sauvetage sur la barge de Jabba, scène qui finalement sera d'ailleurs coupée au montage, mais ça nous ne le saurons qu'après, évidemment, et heureusement pour tout le monde.
Oui, ce premier propos nous montre toute l'organisation qui présidait à l'organisation de ce tournage.
N'est-ce pas? Tout à fait.
Et c'est finalement le 11 janvier 1982 que le tournage commence, et la première nuit est déjà mythique, puisque Carrie Fisher manque de mourir intoxiquée par son système de chauffage, Mark Hamill se fait braquer et cambrioler finalement sa voiture.
Bref.
Les réjouissances sont nombreuses.
Nous verrons que Carrie Fisher aura de nombreux problèmes d'intoxication et pas que par un système de chauffage.
Tout à fait.
Nous verrons cela.
Finalement, donc, faute de moyens, le Foco Millennium qu'on envisage d'utiliser pour cet épisode-ci, c'est celui qui a servi au tournage du second épisode. Un tas de ferraille, dirons-nous, et qui est stocké en attendant une utilisation ultérieure dans un hangar.
N'est-ce pas? Tout à fait. Et le premier action promet de beaux jours pour ce tournage, puisque R2-D2 fonce dans un caillou. La caméra ne démarre pas, notamment à cause du son de la tempête de sable dans la planète de sable. Cette tempête de sable et son son, d'ailleurs, mais surtout cette tempête de sable aveugle.
On va savoir qu'il y a une tempête.
Attention. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une tempête de sable et elle aveugle tous les acteurs avec sa puissance. On s'y croirait presque. Et les acteurs détestent cette scène, notamment notre ami Anthony Daniels, qui, complètement aveuglé, va dans la mauvaise direction et tombe avec son costume par terre. On a hâte de savoir s'il va l'évoquer dans son prochain livre.
Oui, ce n'est que la 45e fois qu'il tombe par terre,
n'est-ce pas,
depuis le début de la saga.
Un miracle qu'il s'est toujours marqué. Monsieur.
Qu'il sache toujours marcher.
Qu'il sache, n'est-ce pas, tout à fait.
La scène se tourne tant bien que mal en un jour. Et le premier jour de tournage, ce fameux 11 février 1982, c'est le premier jour sur 92 jours de tournage au total. Et la fin de tournage est prévue au 1er avril 1982. Nous espérons que ce n'est pas une blague.
Oui,
et la scène suivante qui est tournée, c'est celle de l'entrée au palace de Jabba. Une partie de la porte est réellement construite et l'autre est faite en matte painting, c'est de la peinture sur verre.
Tout à fait, en sachant que le premier jour du tournage, c'est bien janvier et non février, comme tu l'as cité, mais je t'en prie, le 1er avril, c'est bien la date de fin. le décor du village des Ewoks continue d'être construit plusieurs mètres au-dessus du sol et c'est là qu'on va ensuite tourner les prochaines scènes en studio. 39 Ewoks sont attendus, dont Kenny Baker qui jouera soit Wicket, le personnage hein, en lien avec la princesse Leia, soit R2-D2, en fonction de la scène. Les éclairages chauffent tellement nos petits amis que certains Ewoks font des malaises, à croire qu'il ne fait pas très chaud sur Andorre et qu'ils ne sont pas habitués.
Eh oui. Et Lucas, notre cher George, est également sur place pour superviser les opérations. Il travaille aux côtés de Richard Marquand pour les scènes où Jabba est concerné. La difficulté principale dans ce tournage, c'est que Jabba ne peut finalement simplement pas bouger, pas parce qu'il est trop gros,
n'est-ce pas ?
Mais plutôt parce qu'il est fragile. Les chorégraphies sur le plateau prennent également beaucoup de temps parce qu'en fait chaque monstre est un acteur qui attend de savoir où il va se placer.
Et nous verrons qu'ils seront nombreux sur le plateau. George Lucas, qui se rend bien compte qu'il devra être présent tout le temps du tournage, décide également de recruter toute une seconde équipe, la Second Unit, pour le soutenir dans le tournage. C'est bien Marquand qui a quand même demandé à Lucas de rester sur le plateau, même si cela ne plaît pas du tout au créateur. C'est le prix à payer pour des économies de temps et d'argent. D'autant que Richard Marquand n'a quand même pas marqué les esprits, hein, on va le dire, par rapport à son expérience et sa fiabilité au moment de la pré-production, puisqu'il n'a tout simplement jamais eu à gérer un projet d'une telle envergure. Et les gens ont dû le faire savoir à George Lucas d'une certaine manière.
Voilà. S'agissant de l'Empereur, un premier acteur est pressenti, il s'agit d'Alan Webb, qui est finalement sévèrement malade, donc Ian Diarmid est rappelé pour jouer ce rôle. Ian McDiarmid.
Je t'en prie. Les fans te pardonnent.
Oui, merci. L'entretien avec George Lucas dure 10 minutes et l'acteur apporte que le réalisateur l'a complimenté sur son nez et qu'il s'est ensuite dit « Tiens, je crois que j'ai le rôle. » Donc si on vous fait des compliments sur votre nez, sachez qu'en général, c'est plutôt bon signe.
D'ailleurs, ton nez est très beau.
Merci.
Le 18 janvier, le tournage enregistre une demi-journée de retard.
Et souvenez-vous, nous sommes à une semaine du commencement du tournage. Ça fait qu'une semaine qu'on tourne et on a déjà une demi-journée de retard.
Exactement. Donc ça promet. Parlons maintenant de cette scène où 3PO raconte aux Ewoks finalement ce qu'il s'est passé lors des deux précédents films. Même si la scène ne dure qu'une minute, elle a nécessité beaucoup de préparation de la part de l'acteur, bien conscient et gêné hein, du regard que lui lance Harrison Ford lors du tournage, comme s'il était complètement dingue. Il faut dire effectivement qu'il y a de quoi. Et dans la même scène, Warwick Davis, qui joue finalement Wicket, hein, serre fort la jambe d'Harrison Ford en signe d'amitié. Selon le petit acteur, le regard d'exaspération que lui lance Harrison Ford à ce moment-là n'était absolument pas joué. Il est temps que cela se finisse pour l'ami Solo.
Trêve d'affection. Et pour la scène de liesse de célébration à la fin, Dennis Lawson, qui joue le rôle de Wedge, le fameux pilote de X-Wing, est rappelé à la dernière minute pour y figurer car comme l'écrit le mémo, il a maintenant une belle popularité en Angleterre.
N'est-ce pas ?
Donc là, en fait, on profite de sa notoriété, n'est-ce pas ?
Pour gagner un peu de sous.
Mais oui, et rappelons que cet acteur, Dennis Lawson, n'est nul autre que l'oncle d'Ewan McGregor, hashtag le réseau, comme on vous le disait plus tôt.
Eh oui, mais bon, ce réseau-là, il a du bon quand même, on va pas se le cacher.
Oui.
Une nouvelle scène sans Ewok est tournée, cette fois-ci libération pour les membres de l'équipe, celle où Luke annonce à Leia qu'elle est sa sœur. Bien sûr, les acteurs la prennent à la dernière minute pour éviter les spoilers, les divulgations. Il est d'ailleurs demandé aux membres de l'équipe de ne pas écouter la scène. Fisher admettra quand même sa surprise avec humour, en disant qu'elle ne serait pas étonnée d'apprendre que finalement son père n'est pas Eddie Fisher, mais bien Adolf Hitler. Fini la scène, et le tournage se poursuit au rythme prévu, en rattrapant son retard.
Une fois n'est pas coutume. La production se déplace maintenant au trône de Jabba pour le premier quart du film. Encore faut-il que le costume de notre grosse limace soit prêt à temps, ce qui n'est pas certain jusqu'à la dernière minute du commencement du tournage, parce que le week-end qui précède le tournage, le monstre n'est toujours pas peint.
Et oui, bien curieux de savoir quelles sont les couleurs choisies à ce moment-là. À l'intérieur du costume, différentes personnes. Toby Philpott pour le bras gauche et la tête, David Barclay pour le bras droit et la bouche, et Mike Edmonds, je n'ai pas les informations de ce que fait.
On se doute qu'il y soit dans la queue.
Voilà, certainement dans la queue pour la faire bouger de manière frétillante.
Et c'est tout ce qui reste.
Ce trio travaillait déjà ensemble sur d'autres films, on les appelait les Trois Terribles, et était capable de passer près de 10 heures dans le costume de Jabba, sans devenir fou. Quand même une sacrée prouesse.
Oui.
À noter qu'il y avait quand même une pause déjeuner et le fameux tea time. Chacun avait une petite télé à l'intérieur pour voir comment Jabba apparaissait à l'écran, une petite Full HD LED Samsung avec Wi-Fi intégré.
N'importe quoi. Heureusement pour Anthony Daniels, son costume s'était amélioré par rapport à l'épisode 5, mais il était quand même prévu qu'il retourne à la gym 3 fois par semaine.
Ce grand sportif.
On vous a parlé chauffage, parlons maintenant de la climatisation, puisqu'elle est prévue à la demande pour les personnes en costume qui en expriment le besoin.
C'est sympathique.
Quel souci des travailleurs. Oui. La scène du palais de Jabba est décrite comme la plus difficile par le réalisateur, car il y a beaucoup de personnes en costume, beaucoup de matériel et donc beaucoup de chaleur.
De chaleur. Pour la petite histoire, les grenouilles qui sont mangées par Jabba viennent tout droit d'Afrique, les pauvres. Là, par contre, la condition animale, on n'y avait pas encore trop pensé à l'époque. Cependant, celles qui sont prises dans la main de Jabba et qui sont mangées sont effectivement quand même des grenouilles en caoutchouc. On pense aux acteurs qui sont à l'intérieur tout de même.
Les scènes dans le palais de Jabba sont tournées en continuité.
En fait, c'est le manger des acteurs, tu sais. Allez, tiens, et bon appétit.
Oui, enfin bon.
Et c'est tout ce que tu auras.
Finalement, arrivent les scènes avec Leia en esclave.
Ah.
Les animateurs, calme-toi Martin, de Jabba racontent à quel point ils ont eu des difficultés pour poser la main de Jabba sur son épaule, puisque cette main descendait plus bas, sans le faire exprès, ça c'est ce qu'on dit.
Hashtag MeToo.
Et Carrie Fisher, qui n'est pas timide, manifestera son mécontentement quant à la disparition totale de résistance de son partenaire, de son personnage. Elle qui tenait tête à d'autres partenaires tels que Dark Vador et Monsieur Tarkin.
Des sacrés partenaires, effectivement. Elle qui s'appelait elle-même la Space Slut. Le 1er février 1982, la Second Unit, seconde équipe de tournage, commence ses activités pour maintenir le planning, n'est-ce pas, et se concentre d'abord sur les différentes célébrations de fin de film. Avec les Ewoks, hein, finalement, ce qui a le don d'exaspérer les membres du tournage, 3 jours passés avec des petites bêtes dansantes et criantes, ce qui bien que le chef de cette seconde équipe dira « George les adore, tout le monde les déteste ».
Le 11 février, un mois après le début du tournage, David Prowse arrive enfin. Vous vous rappelez l'acteur qui joue Dark Vador, mais deuxième Dark Vador est débauché pour les cascades, mais aucun des deux ne reçoit le script en entier.
Brillant divulgateur.
Oui, on se souvient des sorties de David Prowse à la presse disant qu'il y avait trop de secrets dans ce film et partageant quelques-unes de croustillantes anecdotes du scénario. Côté californien, ça bouge, parce que l'Arizona State Office of Motion Picture Development dévoile les lieux du tournage du prochain film. Un magazine local amplifie l'annonce qui force la production à faire garder et sécuriser le lieu.
Pour vous donner une idée de ce que l'on évoquait tout à l'heure, hein, pour la scène du palais de Jabba, au top de l'effervescence, 200 personnes costumées pour 25% qui seront véritablement présentes dans le film. Voilà.
Mais quoi ?
Voilà, exactement. Hein, donc, c'est quand même pas top, mais bon, c'est comme ça. Le timing est, quant à lui, toujours respecté.
C'est James Earl Jones qui est rappelé pour les voix de Dark Vador. Et à ce moment-là, des vacances sont prises par les autres membres de l'équipe, comme George Lucas.
Vacances bien méritées. Carrie Fisher, à son retour, continue son calvaire près de Jabba. Quand ce n'est pas la main baladeuse, c'est la langue qui s'enfonce dans son oreille. Un véritable régal. Elle attrape d'ailleurs froid avec la climatisation, elle qui n'a vraiment pas grand-chose à se mettre.
Oui, il faut peut-être accuser la climatisation de cette dégradation de sa santé, mais peut-être peut-on également critiquer son rythme de vie, puisque notre chère Carrie alterne entre petit déjeuner au Coca-Cola, drogue et alcool en soirée, elle fait pas mal de nuits blanches, et l'actrice avoue elle-même qu'au bout d'une semaine de tournage, elle ne savait toujours pas qui elle jouait et quelles étaient les intentions de son personnage. Donc on peut dire qu'elle était un peu perdue.
Ça, c'est sûr. David Prowse tient de son côté quand même à faire remarquer qu'il est important dans le rôle de Dark Vador. Il porte le costume, il doit apprendre les lignes, il joue le personnage dans, je cite, ce qu'il y a de plus profond, et a quand même été rappelé pour toute la trilogie, hein, ce qui est quand même pas mal.
Oui, on peut dire qu'il travaille sa confiance en soi. De son côté, Ken Coley, l'amiral Pillette, a achevé son rôle et Sebastian Shaw fait des essais avec le costume de Dark Vador et le maquillage.
Et oui, car c'est lui qui est finalement choisi pour apparaître à l'écran avec le visage d'Anakin, ce qui fera plaisir à David Prowse, vous imaginez bien, pardon. Les scènes de la barge de Jabba débutent et si Markan pensait avoir fait le pire avec la salle du trône du Jabba, il n'était pas du tout au bout de ses peines, une chaleur à crever, beaucoup de lumière pour imiter celle du désert, bref, un autre combat.
Daniels, qui lui est maintenant tout nouvellement costumé, ne semble pas avoir fait beaucoup d'efforts à la gym et fait un malaise dans ce décor terriblement chaud et humide. Seule une personne se sent à l'aise, Carrie Fisher, qui refuse que sa doublure tue Jabba parce qu'elle était elle-même ravie de le faire.
Voilà.
Faut-il accuser les substances psychotiques qu'elle prenait pour ce qu'elle prenait pour ses tentations meurtrières?
C'est du professionnalisme tout ça, ça c'est sûr.
Oui, et pendant ce temps, Anthony Daniels, dans son costume, fait un deuxième malaise. Et il est diagnostiqué claustrophobe, on s'imagine que les célébrations sont pour lui un véritable bonheur.
Quoique ça a l'air d'aller, hein, effectivement, c'est peut-être dû à l'argent. Nous n'en dirons pas plus.
Oh.
Nous achèterons son livre, évidemment. La barge étant bouclée, cette scène vient ensuite la salle du briefing rebelle et Akbar fait son apparition en costume pour les plans larges et en marionnette manipulée pour les plans rapprochés. It's a trap!
Les images font état de l'utilisation du sèche-cheveux dans la bouche d'Akbar pour refroidir l'acteur.
Et oui, on peut utiliser le sèche-cheveux pour énormément de situations. Nous essaierons ensemble le matin prochain, chère Margot. Les membres de l'équipe sont cependant surpris de voir de grandes toiles en plastique sur les hauteurs. Elles ont été mises en place la veille pour protéger des pigeons qui ont élu domicile sur les hauteurs.
Et oui, ce serait trop bête que... un corps étranger ne vienne se poser sur la caméra du réalisateur.
Un pigeon de l'espace. Si Lucas n'est que producteur, cela ne l'empêche pas de reprendre la caméra parfois et de filmer lui-même certaines scènes, comme celle du pont du vaisseau amiral rebelle de l'amiral Akbar.
On décrit souvent la relation entre George Lucas et Richard Marquand comme relativement bonne, mais en fait, le créateur a du mal avec la vision parfois contradictoire de son second.
Lucas reste cependant ravi de ne plus avoir à réaliser, hein, considérant sa contribution quotidienne à 10% de ce qu'il donnerait comme énergie sur le tournage comme réalisateur. Pas étonnant que ce macroniste en herbe ait bien fait un quasi burn-out à la fin du tournage de A New Hope. Sa présence est également due au fait qu'il ne souhaite pas que le film explose son budget de production, comme cela a pu être le cas sur l'Empire Contre-Attaque. Rappelons qu'il produit quand même avec ses propres deniers, hein, la majorité du film.
C'est Carrie Fisher qui, de manière surprenante, a le plus de difficultés avec le réalisateur anglais, parce qu'elle affirme qu'il ne lui donne pas assez d'informations.
Ah oui.
Elle n'est pas satisfaite de la direction que prend son personnage, et les réactions après tournage sont très contrastées. Elle décrit Lucas comme un homme...
Non, elle décrit Marchand.
Elle décrit Lucas... Marquand. Elle décrit Marquand comme un homme qui se cache dans l'ombre de Lucas, mais qui est quand même volontaire et dynamique. Bon, en tout cas, on peut dire que, là encore, c'est un homme qui doit sans doute être dépassé par la taille de la production, et on le comprend, ça a l'air assez titanesque.
Finalement, on peut dire, hein, cher Margot, que Lucas rencontre les mêmes problèmes avec Marquand qu'il a pu rencontrer avec Sir Irvin Kushner, donc le réalisateur de l'épisode 5, un style très différent qui n'y colle pas vraiment avec sa manière de filmer. Lucas souhaitait systématiquement contrôler les plans prévus pour la journée, afin qu'il couvre ce que lui considérait comme un minimum requis, d'ailleurs dans la théorie cinématographique moderne, hein, un plan large, un plan moyen, un gros plan, etc.
En février 82, débutent les préparatifs avancés pour les scènes de l'empereur Palpatine. On laisse d'ailleurs la possibilité à son acteur de garder sa voix s'il parvient à se rapprocher de celle de Clive Revel, qui le jouait brièvement dans l'épisode 5.
Eh oui.
McDiarmid souhaite alors élaborer un mélange assez savant, n'est-ce pas ? Et il dit mêler une voix d'anglais aristocrate à un son de crapaud, ça nous donne ce style assez guttural qui a fait sa notoriété.
Voyez-vous cela, tout à fait. Roll it again. Ceux qui ont été à la célébration comprendront. 6 semaines après le début du tournage, si le timing est plus ou moins respecté, beaucoup de décors sont tout de même encore en construction.
Et oui, les scènes en apparence anodines à l'intérieur de l'étale toile noire sont un véritable cauchemar.
De la toile noire.
Oui, oh, bon. Parce que si le sol noir est très réussi, il marque systématiquement toutes les traces de pas. Ce qui force les équipes à repeindre très 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 souvent ce sol. Et en fait, le hangar de l'étoile noire a coûté à lui seul 750 000 dollars.
Ce qui n'est pas rien, effectivement, pour quelqu'un qui ne voulait pas exploser son budget. Le sol est donc repeint avec une certaine matière glissante, ce qui fait tomber les Stormtroopers figurants. Déjà qu'ils ne savent pas tirer, ils ne savent plus marcher.
David Prowse continue de faire des siennes, d'affirmer qu'il est très dommage qu'on n'ait pas retenu sa voix pour Dark Vador, mais également qu'il est très dommage qu'il ne reçoive pas un script complet. Mais bon, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on comprend bien la production.
Ça, oui.
D'autant qu'un autre acteur est appelé pour jouer Anakin Fantôme, vous vous en souvenez, et visage découvert de Dark Vador. Il joue donc deux choses, hein, Anakin Fantôme et le visage découvert de Vador, à la fin de l'épisode 6. Et c'est Monsieur Sebastian Shaw.
Exactement. Les premières scènes de l'Empereur sont tournées. 4 heures de maquillage, réveil à 3 heures du matin... Ça pique et c'est pas étonnant qu'il ait une telle tête sur le film. Même pas besoin de maquillage, finalement. Pas étonnant que l'Empereur soit un homme cruel. Lentilles de contact, caoutchouc, l'acteur se voit rempli de matériaux divers et variés. Sans compter une heure à la fin du tournage pour enlever tout l'attirail.
Un autre acteur passe sur le billard du maquillage, c'est Sebastian Shaw lorsqu'il doit faire la face de Vador, quand on lui enlève son casque.
N'est-ce pas ?
Commence les scènes du trône de l'Empereur. Son acteur se confronte également à la difficulté de jouer avec David Prowse, dont le rythme de diction dépasse très largement celui de la voix qui sera entendue au final, la voix, on vous l'a dit, de James Earl Jones. À tel point que quand Marquand demande à McDiarmid de patienter un temps supplémentaire après la fin du dialogue de Vador pour reprendre.
Là, j'ai danse à son paroxysme, d'autant que les dernières révisions du script ont lieu parfois le jour même. Quel bordel! C'est ainsi que Lucas ajoute au dernier moment un autre morceau de duel, celui où Vador provoque Luke en évoquant sa sœur. Très beau moment de cette très grande scène.
Oui, c'était quand même une bonne idée.
Ah oui, ça c'est clair.
Les dailies, soit les films tournés chaque jour, sont envoyés à Londres et à ILM pour commencer à travailler sur la post-production. Et c'est une véritable stupeur que prend les équipes, puisqu'ils voient des ours en peluche suspendus dans des arbres préfabriqués. Vous comprendrez bien, les réactions sont loin d'être unanimes parmi les équipes qui sont chargées de la post-production.
On a beau avoir pris Sebastian Shaw pour la face d'Anakin lorsqu'on lui enlève le masque, mais doit-il apparaître comme fantôme aux côtés d'Obi-Wan et de Yoda ? George Lucas tranche et dit oui, permettant de souligner la relation père-fils et donner un message quasi spirituel que dans tout méchant, le bon côté peut être retenu. Pourquoi pas, chère Margot ?
Oui, ça nous fait passer à cette fameuse remarque de Padmé. Il y a du bon en lui.
Autre débat après qui viendra, hein, est-ce qu'on mettra Hayden Christensen ou Sebastian Shaw à la fin, puisque c'est Hayden qui a été retenu.
Si je peux me permettre un commentaire, je pense que c'était une très bonne chose qu'on ait retenu Hayden Christensen qui a fait son grand retour en célébration. Quelle joie, parenthèse fermée.
Eh oui.
Frank Oz est rappelé pour effectuer les scènes avec Yoda. C'est la prochaine étape du tournage qui a lieu sur le plus grand plateau.
Tout à fait.
Le timing est très serré et Stuart Freeborn, notre opérateur marionnette, achève la marionnette le matin même du tournage. Si Yoda apparaît plus vert dans le retour du Jedi, ce n'est pas du tout volontaire.
N'est-ce pas ? Et ses yeux ne sont également plus vraiment centrés. Mais l'équipe considère que cela n'est pas vraiment gênant, étant donné que le personnage est en train de mourir.
Oh là 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 là. L'équipe accuse 3 jours de retard quand le grand Alec Guinness reprend ses habits d'Obi-Wan. Le monsieur est un peu malade le premier jour de tournage et commence à ne plus vraiment se souvenir des dialogues. Mais l'effet reste toujours le même pour les membres de l'équipe, ils sont subjugués.
C'est une question de point de vue, j'ai raté ma blague, c'est pas grave. Celle-ci se tourne d'ailleurs maintenant vers la séquence avec le Rancor, cette grande bête monstrueuse présente dans la barge de Jabba. Il existe en réalité 2 lieux de tournage, un grandeur nature pour filmer les scènes où Luke court dans tous les sens, et un second plus petit qui intégrera le Rancor grâce au travail d'ILM.
Les dernières semaines de tournage sont un marathon frénétique, car l'équipe enchaîne scène après scène. Les écrans bleus sont évidemment de la partie et sont utilisés en masse.
Ouais.
La plupart des décors ne sont pas tout à fait terminés quand l'équipe débarque sur les lieux. Horreur. Le tournage anglais se termine doucement et fait bientôt place à un retour en Californie, et ça, c'est une autre paire de manches.
Suite du tournage en 1982, l'équipe de tournage attaque les scènes extérieures de la barge de Jabba, dans le désert de Yuma. Le décor est à 95% terminé et des bikers échaudés à l'idée qu'on vienne interférer dans leurs activités souhaitent carrément brûler le décor. Je vous jure, c'est Hells Angels des malades. Des barbelés viennent donc entourer les environs. Ambiance, ambiance. $1 million serviront à raser la végétation et construire le décor sur place. Là, il y a quand même de quoi raser le décor.
Ouais. Ouais. Le directeur de la photographie, James Glennon, évoque l'ambiance comme celle d'un melting pot culturel avec un grand potentiel de chaos constant. L'équipe est à moitié anglaise, à moitié américaine. L'espace massif permet de soutenir la barge, comprend un grand espace médical et une cantine qui sert 200 repas par jour.
Nous sommes à cette date le 1er avril 1982.
Et le tournage n'est pas fini.
C'est donc une vraie blague. Le vent souffle très fort et on est obligé de bloquer la barge de toutes les manières de peur qu'elle n'avance toute seule au fur et à mesure.
Les éléments se déchaînent et pendant ce temps, les scènes de forêt se préparent doucement mais sûrement. Une fameuse décision est prise concernant les scènes de motobike. Après plusieurs essais, il est finalement décidé de tourner les plans de la moto en steadicam, nouveau procédé qui a fait ses preuves sur le film Shining de Stanley Kubrick.
Et oui, et le steadicam toujours utilisé aujourd'hui, car Ed Brown, son inventeur, serait dépêché pour marcher avec son procédé dans la forêt et les images seraient alors accélérées pour donner l'effet de vitesse. C'est donc les plans en point de vue que vous voyez. Les scènes de la barge, Margot me demande d'accélérer, se poursuivent et entraînent... Gênant, les scènes de la barge se poursuivent et entraînent blessure sur blessure. Il faut dire que les cascadeurs, jouant les personnages avalés par le sarlacc, aussi appelé vagin de l'espace par Carrie Fisher, s'en donnent à cœur joie, sautant d'une des barges jusqu'à la gueule de l'animal. 6 cascadeurs malheureusement se blessent ainsi très rapidement.
Mark Hamill révèle qu'il y avait d'ailleurs une fameuse compétition entre les cascadeurs anglais et américains. En effet, chaque cascadeur, selon sa nationalité, parie sur des distances toujours plus hautes. Un des Anglais, malheureusement, se prêtant au jeu sans grande dextérité, finit avec une jambe cassée et un retour au pays 2 jours après être arrivé. On peut dire que c'est bien joué.
Tout à fait. La météo s'invite à ces petits jeux, sinon ça ne serait pas drôle. Avec des orages qui ralentissent quelque peu la production, à tel point qu'un jour, l'équipe de tournage n'a pu enregistrer que 20 secondes de film, au lieu en général de 3-4 minutes. Hein. C'est vous dire, on doit tellement tuer le temps que l'équipe entière s'amuse à imaginer un film d'horreur qui pourrait être tourné durant la période sans tournage et qui s'appellerait Blue Harvest, soit tout simplement le nom de code du film pour le protéger lors de la pré-production. On s'arme de patience et tous les plans sont quand même enfin dans la boîte pour ce décor.
Le 25 avril 1982, l'équipe principale se déplace vers Crescent City, aux États-Unis, pour les scènes sur Andorre. Les habitants sont moins intéressés par le film qui s'y tourne que par l'impact économique qui s'en dégage.
Oui.
Et cet impact est de ce chiffre un montant de 2 millions d'euros pour une ville dont 28% de la population active est au chômage.
Pour la preuve des SES que tu es, c'est quand même un chiffre important.
Oui, c'est inquiétant.
Le 26, on ne sait pas où ça en est aujourd'hui, par contre. Le 26 avril, 7h du matin, le tournage commence et les décors, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas du tout terminés. Aussi faut-il commencer par ceux qui sont plus ou moins achevés.
Le jeune Warwick Davis, aujourd'hui bien connu des fans, est appelé au pied levé pour remplacer Kenny Baker dans R2-D2, victime d'empoisonnement suite à un mauvais chili con carne.
Et oui.
L'équipe remarque que le petit garçon est d'ailleurs l'un des Ewoks les plus expressifs avec la bouche du petit ourson, puisque rappelons-le, à l'époque, les équipes de Stuart Freeborn n'ont jamais été capables de faire crimigner des yeux les Ewoks.
Ce qui offrira lieu de polémique, comme vous l'imaginez bien par la suite lorsque Lucas décide de le faire lors de l'édition spéciale. Le 1er mai, Kazanjian, donc un des producteurs, commence à faire la liste des end credits et espère obtenir une liste complète et correcte un mois avant la sortie du film, c'est vous dire.
Au 3 mai, la production a 4 jours d'avance.
sur le planning qui est prévu suite au retard.
Voilà, le planning prévisionnel intégrant le retard en cours. Alors qu'elle s'attendait à voir un brouillard constant, comme les locaux le prédisaient, le soleil perce les nuages régulièrement, ce qui n'est pas en accord avec les scènes précédemment filmées.
Eh oui. Bon, les gens ne sont jamais contents, hein, si tu veux mon avis. Certaines scènes demandent une logistique bien huilée, 40 Ewoks, 130 impériaux et 5 caméras qui tournent simultanément.
Et oui, mais plus le temps avance, plus les équipes sont impatientes pour finir avec un tournage long de 4 mois. Les acteurs ont d'ailleurs de plus en plus de difficultés avec les scènes d'action. Notre chère Carrie Fisher, la première, qui trouve cela de plus en plus difficile de prétendre tirer sur les agents impériaux.
Les scènes d'Andorre se terminent. Et si les membres de l'équipe de tournage ont besoin de repos, beaucoup sont déjà envahis de nostalgie, ayant le sentiment de filmer les dernières scènes de Star Wars. Comme on peut le comprendre aujourd'hui, l'avenir leur donnera tort, au moins jusqu'en 2026. Hein. Et comme le rappelle bien le réalisateur, la partie facile est maintenant terminée, puisque la post-production doit maintenant s'occuper de plus de 500 plans d'effets spéciaux.
Et ça, ce sera l'objet d'un dernier épisode sur le retour du Jedi.
Tout à fait.
Nous vous remercions de votre attention continue et renouvelée.
Exactement, un grand merci. Nous espérons que ces anecdotes vous ont plu. En tout cas, nous, c'était un vrai plaisir d'enregistrer cette émission. Promis, nous essaierons d'enregistrer la post-production avant la fin de l'année 2019.
Si vous souhaitez, vous pouvez laisser vos commentaires, bien évidemment, nous les lirons. Nous remercions une nouvelle fois nos partenaires, nos auditeurs, la post-production de Star Wars en direct.
Oui, cher David, merci beaucoup à toi et Dani pour sa confiance renouvelée malgré le retard. Désolé.
Oui, merci à nos partenaires siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Génération Star Wars et science-fiction de la part de Margot
et Martin.
Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Et que la force soit avec vous.